Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue sur Radio Immo et sur Radio Territoria. Je suis ravie de vous retrouver en direct du SIEC 2026 à la Porte de Versailles, pavillon 6. Le SIEC, c'est le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux. Et justement, quand on parle d'immobilier commercial, on pense souvent aux centres commerciaux et aux grandes rues commerçantes. Pourtant, un autre format s'est imposé partout en France, le Retail Park. Ces ensembles commerciaux à ciel ouvert représentent aujourd'hui plus de 600 sites et plus de 8 millions de mètres carrés développés sur notre territoire. Et justement, je vais en discuter avec mon invité Christian Dubois. Bonjour.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Et ben avec grand plaisir. Vous êtes le directeur du département commerce chez Cushman & Wakefield. Alors, Alors, j'ai un peu expliqué ce que c'était. Qu'est-ce qu'on entend par là, Retail Park ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour nos auditeurs ? Parce que c'est vrai que les termes en anglais, parfois, c'est pas toujours compris de tout le monde.
Bien sûr. Alors, ce sont des parcs d'activités commerciales. C'est parti finalement assez historiquement d'un constat qui était que les environnements périurbains des villes avaient un urbanisme dégradé. Cet urbanisme dégradé, c'était ce qu'on appelle les boîtes qui ont été développées dans les années 60, 70, 80 et qui finalement fleurissaient un peu à droite, à gauche avec des panneaux partout. C'était très vilain et pourtant... Il y avait une forme de succès commercial de ces boîtes avérées. Par contre, c'était moche. Donc, ça dérangeait les centres-villes, ça dérangeait les municipalités, ça dérangeait les enseignes qui augmentaient un petit peu la visibilité de leur concept, et ça dérangeait aussi les propriétaires immobiliers, que ce soit des promoteurs ou les investisseurs, qui se rendaient bien compte que, quelque part, cet environnement dégradé nuisait à leur image de marque et nuisait à leur capacité d'obtenir des autorisations commerciales. C'est comme ça que plusieurs promoteurs se sont un tout petit peu réunis. Cushman & Wakefield a participé à cette histoire. Et ils ont commencé à travailler ensemble sur une charte de qualité qui consistait à dire ce qu'on va faire, on va prendre des engagements pour les villes, on va essayer de créer un urbanisme en périphérie, un urbanisme tout sous le même toit, avec la même typologie d'acteurs, mais tout simplement en privilégiant la sécurité, la convivialité, des emplacements de parking soignés, des toilettes, des plus petites surfaces. On va élargir aussi le marketing mix, on va arrêter de faire que du meuble, on va faire du meuble, du prêt-à-porter, on va faire des services, on va faire un petit peu de restauration et on verra, j'espère dans votre interview, que cet univers de restauration va d'ailleurs continuer à se développer jusqu'à aujourd'hui où la part de la restauration devient de plus en plus importante dans les retail parks.
Et c'est beau, c'est plus esthétique, il y a souvent du bois. C'est vrai, hein ?
Alors, il y a des essences locales. Ouais. En réalité, pour accompagner ce mouvement, l'ensemble de ces promoteurs ont eu une démarche environnementale positive. Ouais. Et cette démarche environnementale passait naturellement par une architecture de qualité, ça c'est une première chose, ouais. Mais elle passait également par de la construction sur des matériaux qui correspondent à l'environnement. Exactement, et l'environnement dans lequel ils sont.
Donc des matériaux bas carbone, c'est aéré, c'est lumineux, c'est en plein air, bon ça on l'a dit. Mais c'est vrai que c'est tout en bois, il y a des baies vitrées, enfin c'est joli, c'est très esthétique. Comme vous l'avez dit, ça fait vraiment contraste avec les centres commerciaux qu'on a connus.
Bardage de simple pot ou double pot.
Qui font moins rêver.
Qui font nettement moins rêver, absolument.
Alors, le point négatif, c'est quand il pleut.
Alors, le point négatif, c'est quand il pleut, certes. Quand il pleut, il y a un peu moins de fréquentation. Mais on voit, sur la plupart des retail parks aujourd'hui, vous avez des éléments de marquise qui couvrent la promenade.
Ouais.
Et promenade que l'on retrouve sur les premières générations de retail parks entre 90 et 2000. Encore très aéré.
Ouais.
Plus on avance un petit peu dans le temps, plus on se rend compte que l'architecture, comme vous le faites remarquer, a pu évoluer pour rendre encore plus de confort. Donc on cache les places de parking. Les places de parking sont plus face au retail park. Elles sont maintenant en dehors du retail park. La promenade est un peu sanctuarisée, entre guillemets. Et puis, la plupart de ces opérateurs, aujourd'hui, mettent des marquises pour que lorsqu'on se promène et qu'il pleut, vous soyez également à l'abri.
Donc les premières, c'était avant les années 2000.
Oui.
Les premiers, pardon.
Oui, absolument.
C'était avant les années 2000.
Absolument.
Ouais. C'était
ça
où ?
Ça dans les années 90-95. Bon, le premier dont je me souviens, moi, il était à Nîmes, avec un groupe qui s'appelait BBC, qui est un groupe d'indépendants, et qui était juste à côté du casino, qui a lancé une opération de retail park qui était très, 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 très positive. Ensuite, il y a eu Immochamp, et ensuite, il y a eu Frey, et ensuite, il y a eu la compagnie de Falsbourg. Donc, se sont pas mal développés. Le premier dont je me souviens, en tout cas, en termes de retail park, comme on l'appelle, c'était Nîmes. peut-être qu'historiquement, il y en avait d'autres avant dans le patrimoine des Mauchamps.
J'avais en tête Confluence à Lyon, mais c'était plutôt les années 2010.
Alors, Confluence à Lyon, pour moi, ça n'est pas un retail park.
Ah, c'est pas retail park.
Non, c'est pas un retail park. Confluence est un centre commercial urbain à ciel ouvert.
Alors,
c'est pas exactement
la limite
pareil.
Est...
Non, alors effectivement, c'est comme... Alors, on peut prendre un autre exemple, ouais. Si vous voulez. Par exemple, si on prend le polygone Riviera. Polygone Riviera, c'est une opération qui, au départ, a été développée par Unibail
Rodamco. Qui est où, ça, pardon ?
Polygone Riviera, c'est à, c'est à côté de Cagnes.
Oui, c'est ça.
Voilà, Saint-Paul-de-Vence.
Ouais.
Et donc, cette opération, elle a été développée comme un centre commercial. Alors, qu'est-ce qui distingue un centre commercial d'un retail park ? C'est une excellente question d'actualité, parce que de plus en plus, la frontière est ténue. Au départ, les retail parks, c'était essentiellement des grandes et moyennes surfaces, au plus de 600 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 2000, 5000 mètres carrés, avec... les enseignes qu'on retrouvait, comme on le disait, dans les boîtes avant.
Ouais.
Les enseignes de meubles, essentiellement avec une grande dominante de l'équipement de la maison.
Ouais.
Plus on avance dans le temps et plus on regarde cette possibilité d'avoir du loisir, d'avoir des unités beaucoup plus petites. Et ces unités plus petites, c'est ce qui caractérisait les centres commerciaux à ciel fermé, les centres commerciaux couverts. Donc, la limite entre retail park et centre commercial, aujourd'hui, elle s'estompe. Le dernier ouvert, c'est celui de la compagnie de Falsbourg, il y a quelques jours, à Valverde, sur la zone de la Croix-Blanche. Vous avez une zone qui est plutôt en outlet. Vous avez une zone autour de Gédeau, qui est plutôt une zone de restauration, à ciel ouvert. Et puis, vous avez une promenade dans laquelle vous retrouvez Lefties, Rituals, des personnes qu'on peut retrouver tout à fait dans les centres commerciaux.
Dans les centres commerciaux, on est
d'accord. Et pourtant, ça reste un retail park. Donc, la frontière, elle s'estompe. Et elle s'estompe au fur et à mesure. Au tout début, c'était très lisible et très clair. C'était des grandes et moyennes surfaces qu'on retrouvait d'habitude en boîte et qui se retrouvaient sous le même toit. Aujourd'hui, la frontière s'estompe pour avoir un tout petit peu de cette partie-là et en même temps un marketing mix qui s'est vraiment élargi.
D'accord. Ouais, c'est assez. C'est vrai qu'il y a la ligne.
Le commerce et la vie, ça. Ouais. Voilà. Vous avez comme ça une évolution très caractéristique de cette histoire qui continue de s'écrire.
En tout cas, votre étude montre que le retail park est devenu vraiment une composante majeure dans le paysage commercial français.
Oui.
C'est une réussite, ça marche.
C'est une réussite. En immobilier de commerce, on part toujours du consommateur.
Ouais.
Donc, je crois que c'est avant tout une réussite pour les maires, mais pour tout, pour les consommateurs.
Bah oui.
Le plaisir d'aller, le plaisir d'acheter dans une forme de convivialité, d'accessibilité,
de simplicité,
avec des enseignes qui sont très souvent des enseignes abordables, donc des enseignes qui s'adressent au plus grand nombre. Et quelque part, c'est un équipement qui vient un tout petit peu faire un peu de concurrence à l'attractivité des centres-villes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent travailler quand même en voiture. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent en voiture pour aller chez les uns, chez les autres à leur travail, et puis et qui utilisent leur voiture pour aller faire leurs courses. Si la voiture ne peut plus rentrer dans les villes, elle est en tout cas bien accueillie au sein des retail parks.
Et c'est, en fait, la recette, on peut dire que c'est finalement la simplicité. Hein. Vous l'avez dit, c'est accessibilité, stationnement facile, loyer maîtrisé, offre lisible. En fait, c'est simple.
Oui,
quoi.
Vous pouvez rajouter aussi des charges qui sont maîtrisées. Parce qu'au-delà des loyers, c'est vraiment
loyer maîtrisé. Ouais.
Mais les charges. C'est nettement moins important que dans les centres commerciaux. Généralement, vous avez assez peu de travelators ou d'escalators. Vous avez des charges qui sont de l'ordre de 30 à 70 euros le mètre carré. Sur les centres commerciaux, il n'est pas rare que vous ayez des charges qui dépassent 150 à 200 euros le mètre carré. Donc on a des loyers qui sont plus raisonnables, on a un chiffre d'affaires qui est quand même assez soutenu, on a des enseignes populaires qui sont attractives pour le pouvoir d'achat, et on a une accessibilité, une simplicité, tout ce qu'on disait. Donc oui, c'est un format qui est très demandé, et c'est un format qui est demandé par les enseignes, par les consommateurs et par les investisseurs. Et là, peut-être un petit problème, c'est qu'effectivement, il y a très peu d'offres sur le marché de retail park. S'il y avait plus d'offres de retail park, il y aurait beaucoup d'acheteurs qui seraient intéressés sur ce marché, dans lequel vous avez un taux de vacances qui est extrêmement réduit. Vous avez une forte stabilité locative, aussi bien sur les valeurs que sur le taux de rotation des enseignes qui sont à l'intérieur. Donc c'est un bel actif, c'est un actif sécurisé.
Alors, un des enseignements de votre étude, c'est que le retail park n'est plus dans une logique d'expansion, mais de transformation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Concrètement, ça signifie qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, comme je vous l'expliquais, vous aviez l'essentiel des unités était dédié à l'équipement de la maison. Ensuite, on s'est rendu compte que certaines enseignes se laissaient séduire de l'équipement de la personne, se laissaient séduire par ce type d'équipement aussi. Le loisir prend une part de plus importante, notamment auprès des jeunes, comme étant un facteur déclencheur d'aliments d'achat. On se déplace pour vivre une expérience et pour éventuellement vivre des expériences de loisirs. Ce sont des concepts qui ont besoin de grandes surfaces, ça tombe bien, c'est-à-dire que Retail Park propose ce type de surface. Et donc on est passé d'un environnement où on était très sur l'équipement de la maison et les boîtes, à un environnement dans lequel on est nettement plus dans l'expérientiel et le loisir. Donc le marketing mix a changé. Il y avait avant quasiment pas de restauration à l'intérieur de Retail Park. On retrouvait 2-3 boîtes, on retrouvait des professionnels de l'immobilier, de restauration, de périphérie, qui pouvaient être des fast-food.
Ouais, qui pouvaient être, le fast-food avec un M jaune, par exemple.
Par exemple, exactement, ou voire d'autres, en tout cas. Mais
maintenant, il y a beaucoup de choix.
Là, maintenant, il y a beaucoup de choix. Ouais. Il y a beaucoup de choix, il y a des plus petites unités, et donc on est. Du coup, ça étend aussi les horaires de consommation, puisqu'en fait, quand vous n'avez pas de restauration, vous n'avez pas de raison de rester. Si jamais vous avez pas mal d'unités de restauration le soir avec des jets d'eau comme on peut retrouver avec des jeux de lumière, mais vous avez envie de rester, et si vous restez plus longtemps, vous consommez plus.
Donc on l'a dit, c'est devenu, ça se rapproche de plus en plus des centres commerciaux, en fait c'est ça, c'est justement cette transformation.
Oui, la frontière devient plus ténue. Je pense que l'avantage des retail parks sur les centres commerciaux, c'est toujours la possibilité d'offrir des grands formats pour les sujets de loisirs. Donc je crois que, et c'est une des sources pour lesquelles les jeunes veulent revenir, je réinsiste dessus, vous avez des loyers qui sont plus attractifs que dans les centres commerciaux. On est sur des loyers pour une unité de 1000 à 1500 mètres carrés, vous êtes à 170 euros le mètre carré, 200 euros le mètre carré. Un 1000 à 1500 mètres carrés dans un très grand centre commercial, c'est quand même 4 fois plus, 3 fois plus. Donc on a des loyers qui sont plus bas, on a des charges qui sont plus basses et on a du foncier ou de la surface disponible qui est plus grande. Donc c'est exactement le type de territoire, le type d'unité qui sont recherchés par les enseignes de loisirs.
Alors dans l'étude, vous évoquez aussi la question des friches commerciales et de la transformation de l'existant. Est-ce que l'avenir du retail park passe par le recyclage des zones déjà urbanisées ?
Une excellente question. La réponse devrait être oui.
Ouais.
La réponse devrait être oui, mais il y a des contraintes administratives qui pèsent énormément sur les mètres carrés commerciaux, où qu'ils soient, avec les ZFE notamment.
Et en fait, donc les zones à faible émission pour nos auditeurs.
Les zones à faible émission, exactement. Et donc ces contraintes qui étaient faites plutôt pour freiner le développement des nouveaux mètres carrés, ouais. Ok, très bien, ça a notamment marché. Je disais un peu plus tôt ce matin, ce à quoi on assiste, c'est une régulation par l'administration du marché qui se régulerait de toute façon tout seul, parce que la densité commerciale en France est telle que le marché est très mature. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de réinventer les équipements pour qu'ils restent attractifs, pour proposer, j'en parlais tout à l'heure, de la restauration et des activités complémentaires à celles qui existaient déjà. Et il faut bien que ça se finance d'une façon ou d'une autre, ces mètres carrés. Donc il faut créer des extensions en même temps que l'on rénove. Donc, généralement, les nouveaux mètres carrés commerciaux ne sont pas des mètres carrés qui viennent de nulle part, ce sont des nouveaux mètres carrés d'extension dans le cadre des rénovations des équipements commerciaux.
Alors nous sommes au siècle, le rendez-vous des acteurs du commerce. Quel est aujourd'hui le principal sujet de préoccupation ou d'enthousiasme des acteurs du retail que vous rencontrez ici ?
Alors le principal sujet de préoccupation, c'est tout ce qui concerne les incertitudes. On vit dans un monde d'incertitude économique, on vit dans un monde d'incertitude sur l'inflation. Donc les budgets 2026 ont déjà été réalisés en 2025, les transactions tiennent. Elles tiennent dans une forme de stabilité essentielle des valeurs locatives, donc on est pas mal. On est sur un marché qui se resserre, c'est-à-dire qu'on est plus sur des emplacements numéro 1 que les 1 bis et 2 qui commencent à être un petit peu plus difficiles. Positivement, je dirais qu'il y a toujours de l'activité et du volume. Les vraies interrogations, c'est les interrogations de demain. C'est qu'est-ce que vous allez créer comme budget pour 2027, 2028 et 2029 dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui. Ça, c'est un peu un sujet de préoccupation.
Et j'imagine le contexte international. Parce que là, il y a toujours une guerre au Proche-Orient. On est toujours en crise énergétique.
Oui.
Qui pèse sur le pouvoir d'achat. Hein. L'inflation, vous l'avez dit.
Absolument.
Pèse sur les ménages.
Un sujet de préoccupation dont je parlais récemment. Un premier point, c'est si vous regardez la périphérie, vous êtes obligé de prendre la voiture. On disait, c'est super, le retail park, justement, accueille la voiture. Sauf que la voiture, aujourd'hui, avec 2 euros, plus de 2 euros le litre d'essence, ça pèse sur le pouvoir d'achat des ménages.
Et c'est un arbitre, du coup.
Exactement. Et donc, qu'est-ce que font les ménages ? Ils font attention au nombre de fois où ils prennent la voiture pour aller faire leurs courses, et ils vont plutôt à l'essentiel qu'à l'accessoire. Donc, ça a une incidence sur les commerces dits accessoires.
Oui.
Le deuxième sujet de préoccupation, c'est la mobilité douce dans les villes. La mobilité douce dans les villes, on en parlait, on en revient à cette histoire de voiture, on peut se dire, c'est super, les gens n'ont pas besoin de prendre leur voiture à l'intérieur des villes. Oui, mais si jamais on n'accueille pas les personnes de la périphérie, on diminue les zones de chandise et d'attractivité de la ville. Donc, préoccupation pour les enseignes qui sont en centre-ville, c'est comment je gère mes flux aujourd'hui. Mes flux se sont rétrécis, ma zone de chandise s'est rétrécie, donc il faut que je continue à créer de l'attractivité. Donc on est dans un moment un tout petit peu qui rend dubitatif.
Ouais.
Mais la bonne chose, parce que quand même il faut quand même rester sur une activité positive, c'est que ce salon il est plein, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Nous, depuis ce matin, le stand des Amplipa avec des enseignes qui continuent à avoir des plans d'expansion pour aujourd'hui, pour demain, pour l'année prochaine. Et sur la plupart de tous les formats, que ce soit des centres commerciaux, du centre-ville ou de la PSE.
Donc il y a de la demande, ça continue.
Il y a de la demande.
Les gens restent positifs malgré tout.
Oui, ils vont faire un petit peu de stock picking, c'est-à-dire que ils ont un accès beaucoup plus important à la data que par le passé. Donc on sait exactement quel est le bon flux du trottoir, quel est le bon sujet, quel est le bon endroit où on veut aller. On est beaucoup plus pointu sur ce que l'on veut prendre. On est beaucoup plus sélectif, mais si on arrive à satisfaire cette sélectivité, à ce moment-là, les transactions sont au rendez-vous.
Eh bien, merci infiniment pour cet échange passionnant. Christian Dubois, merci d'avoir été avec nous. Nous, on est en direct pendant 2 jours sur le SIEC 2026, l'édition à la Porte de Versailles, et on vous fait vivre cet événement pendant 2 jours. Donc, à tout de suite.
Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.